Bonjour Éric Woerth.
Bonjour.
Donnez-vous à la victoire des candidats de votre parti, les Républicains, dans les deux législatives partielles qui avaient lieu dimanche, la même importance que Laurent Wauquiez, le président des Républicains, qui parle du début de la reconquête?
Ah, c'est certainement un bon début pour les Républicains, avec un nouveau président et une nouvelle équipe. Gagner deux législatives partielles, je vous rappelle qu'on était sortant sur une législative, à Belfort, avec Yann Boucard, et que nous avons gagné sur La République En Marche, la deuxième législative dans le Val d'Oise. Donc c'est un beau résultat. C'est un début. On ne juge pas à travers deux partiels.
Avec une mobilisation très faible des électeurs,
ouais,
une abstention extrêmement forte. Oui,
ouais, mais les partiels, c'est toujours le cas. Tous ceux qui l'ont perdu considèrent que personne n'est venu voter, donc c'est la bonne raison. Non, je pense que c'est pas la bonne raison. La bonne raison, c'est que ceux qui ont eu envie de venir voter à un moment donné ont décidé de voter pour les Républicains assez massivement. Hein. C'est spectaculaire. C'est pas une petite victoire, c'est une grande victoire dans les deux cas. L'un était plus acquis que l'autre, et dans le Val d'Oise, la remontée du candidat au deuxième tour a été très très spectaculaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Républicains aujourd'hui commencent à devenir la force d'opposition qu'ils doivent être, c'est-à-dire une alternative crédible à la politique d'Emmanuel Macron. Ça veut dire aussi qu'Emmanuel Macron dispose d'un noyau dur, comme tous les présidents de la République, mais pas si dur que ça et pas si grand que ça.
Il a encore de la marge.
Bien sûr, évidemment, ce sont voilà des avant-postes, des avant-gardes. Nous verrons bien.
Mais c'est le signe que les sympathisants des Républicains veulent, pour vous, reprendre en quelque sorte leur destin en main, quoi, qu'ils se mobilisent.
En tout cas, c'est encourageant pour les idées de droite et du centre. Je suis sur moi la ligne politique qui est que les Républicains est un grand parti, que les partis traditionnels sont pas si traditionnels que cela, et que les partis nouveaux ne sont pas si nouveaux que cela. Donc il y a des grandes lignes politiques, parfois un peu historiques d'ailleurs dans notre pays. La droite et la gauche, ça continue à exister, certainement sous des formes qu'il faut modifier au fur et à mesure du temps. Mais ça veut dire aussi que les Républicains, aujourd'hui, sont la première force d'opposition, une opposition intelligente, une opposition éclairée, mais une opposition avec des propositions alternatives. On va devoir travailler sur cette base-là. Il faut travailler beaucoup pour redire ce que sont nos valeurs et surtout nous poser les bonnes questions pour apporter les bonnes réponses à la vie des Français.
Emmanuel Macron est en Corse aujourd'hui. Quel langage doit-il tenir selon vous aux élus qui réclament plus d'autonomie?
Écoutez, c'est le langage de la fermeté. D'abord, c'est une drôle d'idée de faire un discours, je trouve, sur la Corse, dans ce climat un peu très très curieux. On ne sait pas ce que va y faire le président. Tout ça est très mystérieux. Au moment d'une commémoration, qui est cette commémoration de l'anniversaire de la mort, les 20 ans de l'assassinat de Claude Erignac. Je pense qu'il y a un mélange des genres qui est un peu étonnant. Ça ne peut être qu'une parole de fermeté. Il n'y a qu'une seule France, il n'y a qu'un seul État, il n'y a qu'une seule République. Puis il y a des régions qui ont chacune beaucoup de particularités. La Corse a évidemment fait partie de celle-ci. D'ailleurs, elle
a un statut aujourd'hui. Ça peut s'inscrire dans la Constitution, comme il le demande, par exemple, la spécificité corse, non ?
Bien sûr que non. Enfin, ça n'a rien à faire dans la Constitution. La Corse est le territoire de la République française. Les Corses sont des Français, et puis ils sont Corses, comme les Bretons sont des Français, ils sont Bretons, etc., etc. Il n'y a qu'une seule France, une seule République. Il peut y avoir des règles ici ou là qu'on adapte aux spécificités locales. Il peut y avoir des expérimentations de tel ou tel type de politique pour l'adapter à la géographie ou à la culture de nos régions. Mais c'est déjà le cas entre nous en Corse. Quand on veut, par exemple, quand les nationalistes, on ne sait plus comment on les appelle, les nationalistes, autonomistes, décident, enfin en tout cas souhaitent un statut du résident, c'est-à-dire la capacité d'acheter que si on est résident depuis de plusieurs années, tout simplement parce qu'ils disent que les jeunes ne peuvent pas acheter, que y a une spéculation foncière. Mais la Corse profite aussi de cette spéculation foncière. J'ai jamais vu un Corse vendre moins cher son bien, et ça apporte de l'argent à la région Corse. Et c'est vrai entre nous, ce phénomène, c'est vrai, dans beaucoup de stations touristiques ou de régions très touristiques, partout ailleurs sur le territoire national. Donc il faut réagir avec bonne volonté sur l'adaptation, mais on doit payer les mêmes impôts et vivre sur les mêmes lois. Une seule République, une seule France.
Et deux langues, donc, officielles, puisqu'ils réclament la co-officialité de la langue corse aux côtés du français ?
Certainement non. D'abord, il y a des langues... moi, je suis d'origine alsacienne. On parle aussi alsacien en Alsace. Et c'est vrai dans d'autres régions, le catalan, etc. Donc, non. Il n'y a qu'une seule langue reconnue par la Constitution. Clairement, c'est la langue française. Et puis après, il faut continuer à faire vivre les langues régionales, bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est ce qui est fait. Rien de plus. Non, la collectivité, elle doit faire son job, hein, son métier. Elle a déjà beaucoup de pouvoir, cette collectivité unique en Corse. Donc, elle doit faire son métier plutôt que de chercher aujourd'hui à étendre un statut de façon anormale pour un territoire de la République.
Les auteurs d'un rapport qui a été dévoilé dimanche par nos confrères des Échos émettent d'importantes réserves sur le projet de service national universel souhaité par Emmanuel Macron, annoncé pendant sa campagne, qui coûterait selon eux de 2,4 à 3 milliards d'euros par an. Faut-il le faire ou non, ce service national universel?
En tout cas, il y a un service civique qui existe, qui est sur la base du volontariat. Un service sur la base de l'obligation coûte évidemment extraordinairement cher. Ce que vous dites, c'est un coût de fonctionnement, hein, 3 à 4 milliards d'euros, enfin, entre 2, 3 à 4, je ne sais pas, ça dépend de la forme qu'il prend. Donc c'est considérable. Et puis après, il y a un coût d'investissement, c'est-à-dire qu'il faut loger, il faut... je ne sais pas. Dans l'idéal, on pourrait se dire qu'il faut un moment où il faut brasser, mais c'est l'école qui doit brasser.
Créer de la cohésion, recréer de la cohésion nationale.
Oui, mais le service militaire de l'époque, à l'époque où je faisais le mien, n'était pas un service de brassage. En réalité, il y a des gens qui ne le faisaient pas, et il y a des gens qui le faisaient dans des conditions extrêmement différentes. Donc, je pense qu'il y a un principe de réalité aussi. Il y a d'autres moyens, sans doute, mais là-dessus, on peut en discuter ouvertement. Je crois simplement que le pays aujourd'hui, il n'a pas les moyens de faire cela, et qu'il faut donner aussi à l'école toute sa chance, aux associations, toute leur chance. C'est la société tout entière qui doit brasser. L'ascenseur social, il ne fonctionne plus. Il s'est arrêté depuis longtemps, il ne s'arrête plus à certains étages. On le voit tous les jours. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler et pas amener des instruments nécessairement nouveaux. Il y a un peu un phénomène d'usure dans le macronisme aujourd'hui.
Les Français sont très favorables aux principaux projets de réforme des institutions voulus par l'exécutif. Selon un sondage interactif qui est sorti hier, 93% approuvent la proposition de limiter à 3 au maximum le nombre de mandats consécutifs des députés et sénateurs, et 92% sont favorables à la réduction d'un tiers du nombre des parlementaires. Si les Français le veulent, est-ce qu'il faut le faire ?
Mais c'est le parlementaire bouc émissaire, c'est toujours la même histoire. Si vous faites un référendum sur le fait de savoir si...
Les Français ont un vieux fond de poujadisme.
Non, mais c'est logique. Les élus sont aux avant-postes, c'est eux qui représentent les Français. Par principe, ils cumulent aussi toutes les peurs, toutes les craintes, toutes les angoisses, toutes les jalousies, toutes les mises en cause. Ce que je peux comprendre, on est aussi là pour ça. Nous, on est favorable à la baisse du nombre de parlementaires. Mais ça veut dire aussi des parlementaires dotés de plus de moyens. Attention aux attaques simplistes contre nos institutions. Moi, je ne vais pas me draper dans la démocratie avec un grand D. Je suis pas là. Je dis simplement que pour que la France continue à jouer un grand rôle dans le monde et que les Français aient du travail, et que les jeunes aussi, et qu'on ait une envie de France, il faut évidemment des institutions qui fonctionnent. Et il ne faut pas réduire les pouvoirs du Parlement au seul profit de l'exécutif. Aujourd'hui, c'est ce que fait Emmanuel Macron. La verticalité, c'est en réalité la concentration du pouvoir dans un gouvernement technique avec un président qui est seul à gouverner. Et donc toutes les institutions, au fond, le dérangent. Le Parlement, il faut plutôt lui couper les ailes qu'autre chose. Et c'est la première fois qu'il y aurait une réforme constitutionnelle qui aboutirait à une réduction du pouvoir du Parlement. Ça, il faut faire attention, et bien évidemment, on aura ce débat de façon très approfondie.
Merci Eric Woerth, bonne journée.